21h à Bamako,
22h à Niamey
et 22h à N'Djamena.
Bienvenue dans Sahel Plus,
présenté par Clamoran Jibou et Fernand Fodzin.
Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus.
Après le bulletin d'information, quels sont les enjeux d'un report de 6 mois pour l'organisation des élections municipales au Mali?
Nous serons au Niger pour notre dossier.
S'il y a une certaine menace, nous n'hésitions pas à demander à nos partenaires, les Américains notamment, d'intervenir autant qu'ils le pourraient.
Nous évoquerons la coopération militaire entre les États-Unis et le Niger, ainsi que la liberté de la presse.
Direction le Cameroun pour notre page culture.
Pour y découvrir la société Taylor Guitars, qui a été récompensée par le département d'État américain pour son respect de l'environnement et son exploitation durable des stocks d'ébène du pays.
Enfin, nous terminerons l'émission avec African Voice, notre rubrique interactive direction le Tchad, où nous entendrons le témoignage de Mohamed Seltir sur l'appel à la grève des employés de la compagnie pétrolière publique chinoise, AFAR, dans le sud de ce pays.
Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous. Les États-Unis mettent en garde contre la vente non autorisée du pétrole en Libye. Ceux qui achètent du pétrole volé pourraient faire face à des poursuites et des sanctions. Washington rappelle que l'or noir libyen appartient à la Compagnie nationale du pétrole et de ses partenaires, parmi lesquels on retrouve des entreprises américaines. Le département d'État réagit ainsi à la tentative de vente de pétrole par des miliciens. Un navire citerne battant un pavillon nord-coréen a cherché à quitter les côtes libyennes, mais a été empêché par les autorités. Grève dans le secteur pétrolier. Au Tchad, les employés d'un consortium chinois disent avoir arrêté de travailler hier pour une période de 3 jours reconductible. Évoquant la charte de la ville, réclame une augmentation de salaire de 200%. Le consortium formé par 2 compagnies chinoises et spécialisées dans la prospection pétrolière emploie environ 1500 personnes au Tchad. En République centrafricaine, une partie des habitants du PK13 à la sortie du nord de la capitale se sont soulevés ce matin. Ils ont barricadé l'axe Bangui-Boali. Ils protestaient contre un éventuel transfert des combattants de l'Est-Séléka dans une école de la localité. On fait le point avec Nicolas Pinou.
Oui, la grogne a mobilisé plus d'un millier de manifestants venus de plusieurs quartiers et villages de la commune de Bégoua au nord de Bangui. Motif du mécontentement, des rumeurs sur un possible transfert des combattants de l'ex-rébellion Séléka dans l'enceinte de l'école musulmane Hama située au PK16. Poussés par des désirs revanchards contre les ex-rebelles, les manifestants ont barricadé pendant plusieurs heures la route nationale 1 qui mène à Boali. Ils ont ensuite brûlé des pneus et saccagé l'école. Le calme est finalement revenu dans le secteur après l'intervention des forces internationales qui ont dispersé les manifestants. S'agit-il d'une fausse rumeur? En tout cas, aucune réaction n'est encore enregistrée de la part des autorités centrafricaines. Toujours dans Bangui, la tension reste palpable. Au PK5, le fief de la communauté musulmane, plus d'une dizaine de personnes ont été tuées dans ce quartier le week-end dernier, en représailles à l'assassinat de 4 musulmans par des anti-balaka. Jusqu'à ce lundi, le secteur était encore inaccessible et les commerces toujours fermés. Un calme précaire règne aussi dans la ville de Ndélé, dans le nord du pays. Un accrochage samedi a eu lieu entre les ex-Séléka et les forces sangaristes, tuant 4 Séléka. Le CICR, de son côté, déplore la mort d'un de ses employés dans la ville.
Et toujours pas de nouvelles du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu samedi avec 239 personnes à son bord. Le mystère reste entier, Timothée Donangmaï.
À Kuala Lumpur, les autorités disent que le carburant prélevé en mer au large de la Malaisie ne provient pas du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Des analyses ont révélé que ce carburant n'est pas utilisé pour les avions, mais pour les navires. Plus de 2 jours après la disparition de l'appareil des écrans radars, rien n'a été trouvé malgré des nouvelles faisant état de débris flottant au sud du Vietnam. Nous n'avons rien trouvé qui semble provenir de l'appareil, encore moins l'appareil lui-même, a dit le directeur de l'aviation civile malaisienne. Le vol 370 a disparu samedi matin, environ 1 heure après avoir décollé de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Les autorités ne rejettent aucune piste possible, mais jusqu'à présent, les recherches ont été vaines. Environ 2/3 des passagers sont de nationalité chinoise. Les autres viennent d'autres pays asiatiques, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Des enquêteurs de 8 pays, y compris les États-Unis, travaillent dans la zone de recherche, tandis qu'ils examinent le cas de 2 passagers ayant utilisé 2 faux passeports italiens et autrichiens.
La Voix de l'Amérique, on retrouve maintenant Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel+, et nous ouvrons l'émission avec le Mali, Fernand.
Le Mali, qui vient d'adopter par ailleurs un projet de décret portant sur la prorogation des mandats des conseils communaux, des conseils du cercle, des conseils régionaux. Selon Mohamed Babi, ministre de l'Emploi et porte-parole du gouvernement, ces décisions ont été prises dans le cadre de la réconciliation nationale et pour assurer une meilleure organisation des élections. Quels sont les enjeux de ce report des élections? Des explications d'Alexis Kalembri, directeur de publication du journal Les Échos.
Je pense que c'est une moindre mal, hein, parce que si on voit la situation, il y a des négociations en cours tendant à revoir un peu l'organisation communale. Donc, les questions de financement, le fait qu'on sorte de deux longues élections et, disons, la réorganisation en marche sont des arguments assez valables pour ces reports de 6 mois. Habituellement, au lieu de proroger, on mettait en place des collèges transitoires. Mais je pense qu'au vu de tout ce qui a été fait par ces collèges transitoires comme, disons, tâtonnement, l'idéal était effectivement de proroger le mandat de ceux qui sont déjà élus.
Vous voulez dire, M. Kalembri, que reporter les élections à 6 mois, c'est une solution idoine?
Oui, bien sûr, c'est une bonne solution parce que d'abord, ça permet de revoir un peu l'organisation des communes, de voir quels sont les pouvoirs supplémentaires qu'il faut accorder aux élus locaux. Et deuxièmement, ça permet à l'État de souffler et de pouvoir rentrer encore dans des phases d'élection. Donc, je pense que toutes ces raisons mises bout à bout permettent d'expliquer le report.
Et par rapport à la question du Nord, quels peuvent être les enjeux?
C'est le premier point, parce que si vous voyez, les négociations qui s'engagent par rapport au Nord sont axées sur une décentralisation poussée, comme l'a dit les autorités. Donc cette décentralisation poussée met au centre les communes. C'est pour ça qu'il faut voir clair à ce niveau, voir qu'est-ce qui va être arrêté avant de pouvoir faire des élections communales.
Quelles seront les perspectives alors pendant les 6 mois? C'est s'attarder sur la question du Nord, où on a connu quand même quelques violences il y a quelques temps?
En fait, c'est vrai que le Nord étant maintenant sous projecteur, il y a des violences récurrentes et disons qui sont l'hôte de la zone depuis longtemps maintenant, qui sont sous les projecteurs et qui prennent d'autres connotations. Sinon, ce n'est pas pire qu'en d'autres périodes. Mais l'avantage par rapport aux élections, c'est que les négociations vont être cadrées dans un délai. Si on a mis 6 mois, ça veut dire qu'on est sûr d'avoir une idée de cette décentralisation poussée avant de faire les communales.
Notre confrère Alexis Kalembri, directeur de publication du journal malien Les Échos.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+, sur la Voix de l'Amérique et sur le 91.2 FM à Mopti sur la radio Sagan. Pour notre dossier, nous retrouvons le ministre nigérien des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum.
Au micro de Nicolas Pineau, le ministre nigérien des Affaires étrangères a tenu à rappeler l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. Mais si la France a envoyé des militaires sur le terrain, les Américains, eux, ont choisi de limiter leur appui à une aide logistique. Est-ce suffisant? Les Américains devraient-ils s'engager plus intensément dans cette lutte contre le terrorisme? Les réponses de Mohamed Bazoum.
Lorsque le Mali avait été occupé et que le reste du territoire était menacé d'occupation, ce qui aurait porté la menace chez nous de façon sûre, nous n'avons pas manqué de demander à l'ensemble de nos partenaires, au premier chef les Américains et les Français, d'intervenir avec des moyens conséquents qui sont les moyens que la France a utilisés. Que la France ait eu à le faire, c'est à son honneur, mais nous sommes toujours dans l'état d'esprit où s'il y a une certaine menace, nous n'hésitions pas à demander à nos partenaires, les Américains notamment, d'intervenir autant qu'ils le pourraient. Cela dit, c'est un état souverain qui a ses propres calculs et qui regarde l'Afrique aussi en fonction de ses intérêts stratégiques, certaines parties en particulier, et donc nous ne lui jetons pas la pierre, le gouvernement américain, s'il devait ne pas agir à la hauteur de ce que fait la France, mais notre vœu serait qu'il soit à la hauteur de leurs responsabilités sur l'ensemble des points du monde et au Sahel notamment.
Autre dossier sur l'actualité également au Niger, on a vu l'arrestation de journalistes et de syndicalistes. Certains ont pu penser qu'il y a une certaine crispation au niveau du régime de Niamey. Quelle est votre réponse ?
Il n'y a pas eu d'arrestation, il y a eu des interpellations. Le métier de journaliste est réglementé au Niger comme ici. Et parce qu'on est journaliste, on n'est pas tout permis. Malheureusement, nous, parce que nous sommes un régime démocratique, parce que de surcroît, le président de la République a pris l'engagement en signant le protocole de la table de la montagne de ne jamais arrêter un journaliste. Les journalistes se laissent aller parfois à des libertés qui ne sont pas compatibles avec leur métier. Et il y a eu des interpellations suite à des choses parfois assez graves qui ont pu être dites sur des médias pour que ils s'entendent de dire qu'ils n'ont pas le droit de tout faire, tout simplement. Souvenez-vous de ce que la presse a fait comme dégâts au Rwanda. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et donc, voilà, nous n'arrêterons jamais un journaliste, nous n'en mettrons jamais un en prison. Le président de la République a pris cet engagement, mais nous avons voulu leur dire, pour autant, vous devez faire attention. Je crois que le message est passé. Aujourd'hui, ils ont un autre comportement. Voilà comment il faut comprendre ça.
Mohamed Bazoum, ministre nigérien des Affaires étrangères. Et c'est au son d'une guitare Taylor 814 CI que nous ouvrons la page Culture Claire.
Les mythiques guitares Taylor ont été récompensées fin janvier par le département d'État. Ils ont reçu le prix de l'excellence professionnelle, notamment pour leur usine au Cameroun et leurs investissements dans le développement durable. La scierie Krelicam est dédiée au commerce équitable du bois d'ébène. Le Cameroun est un producteur d'ébène noire et les exploitants forestiers accordaient beaucoup plus d'importance à l'ébène noire, au point de mettre en danger l'ébène représentant des vénures, qui représentent quand même environ 9 arbres sur 10. En valorisant cette ébène à vénures, Taylor's Guitar a permis d'inverser la tendance et de limiter le gaspillage du bois. Timothée Donangmai a joint Anne Middleton, la directrice chargée de l'environnement et des relations avec les communautés à la scierie Krelicam à Yaoundé.
C'était un honneur, mais il n'y a pas une prime avec l'argent ou les autres choses comme ça. C'est juste un honneur. Ici en Cameroun, les emplois sont très pieux. Nous avons fêté le vendredi passé avec les photos et le gâteau, un peu de bière, bien sûr.
Parlez-nous de Krelicam. Quelle est l'importance de cette opération sur le terrain?
Ça, c'est une opération très importante pour nous parce que spécialement après la loi Lacey était passée aux États-Unis, le Lacey Act, le monde a dit « Ok, nous avons besoin des bennes légales pour faire les guitares ou trouver une autre espèce, une autre solution. » Et ça, c'est la raison que M. Bob et M. Vidal ont acheté Krelicam pour contrôler toutes les chaînes de production, tous les fournisseurs, tout le bois, tous les procès.
Parlez-nous donc de Krelicam. Qu'est-ce que c'est comme compagnie? Combien de personnel? Quelles sont les activités?
Oui, nous sommes juste une petite société ici. Nous avons 70 employés et tous les employés sont ici à Yaoundé. Et ça, c'est la première fois dans toute l'industrie des instruments musicaux quand une société américaine ou européenne a acheté une scierie.
Taylor Guitars a décidé d'utiliser toutes les sortes d'ébène et non seulement l'ébène noire.
Oui, avant ça, l'industrie acceptait seulement le bois d'ébène totalement noir. Nous souhaitons que maintenant l'industrie utilise tous les bois d'ébène, mais maintenant je pense que l'industrie, ils ont commencé d'accepter toutes les couleurs. le bois d'ébène avec un peu de blanche ou le bois d'ébène un peu brune. Parce que c'est rare de trouver un arbre qui est parfait.
Vous avez aussi amélioré les revenus au niveau local. Qu'en est-il?
Nous avons et maintenant tous les employés à Calicam, ils ont une salaire double.
Anne Middleton, directrice chargée de l'environnement de la série Crélicam au Cameroun.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur 106.2 FM, la radio Sikoro à Nyono, en Guinée.
Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut s'élever, lever, lever.
Et nous terminons l'émission avec African Voice, notre rubrique interactive, pour évoquer les grèves au Tchad, Fernand.
Le Tchad, où les employés de la filiale de la compagnie pétrolière publique chinoise, la CNPCIC, à Sfar, dans le sud de ces pays, ont lancé un appel à la grève pour revendiquer une augmentation de leur salaire. Écoutons la réaction de Mohamed Salti, un des employés de cette compagnie pétrolière.
En fait, c'est dans le cadre d'une révision de la convention pour les employés du secteur pétrolier. Donc, ce qu'ils revendiquaient, c'est l'augmentation du salaire de base parce que vu la cherté de vie et puis de quelques primes. Donc, la convention a été élaborée il y a de cela à peu près 3-4 ans et c'est arrivé à terme. Donc, les discussions ont eu lieu avec le patronat dans le cadre de cette révision et puis ces revendications que j'ai énumérées font partie de la révision. Donc c'est plutôt beaucoup plus une discussion qui a eu lieu entre le syndicat des employés et puis le patronat.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences néfastes si leurs doléances ne sont pas satisfaites?
Ce n'est pas que les doléances ne sont même pas satisfaites, c'est déjà en bonne voie. On a même déjà le compte-rendu qui a été envoyé aux employés. Le compte-rendu a été fait, donc le nombre de revendications ont été déjà bien négociées. Ce qui reste, c'est juste des reports sur quelques points qui ne sont pas encore à jour. Donc d'ici quelques mois, il va encore repartir pour les points qui restent. Mais sinon, tout est en bonne voie.
On parle de la vie chère. Vous dites que 4 ans. Quelle est votre réaction par rapport à cela quand même?
Non, par le passé, il y a eu aussi une convention qui a été élaborée. Et la convention, on ne révise pas tous les ans. Donc ça, c'est la périodicité normale pour la révision de cette convention. Donc maintenant, cette révision doit avoir lieu parce que celle qui a été élaborée avant est déjà arrivée à terme. On ne sait pas qu'ils ont attendu, mais donc c'est comme si on regroupe les revendications sur les périodicités. Donc on élabore, on vient, on revendique dans le cadre de la révision et ensuite on décide d'une autre date pour une prochaine révision qui permet aussi de mettre à jour certaines données de la convention, quoi. Que les paramètres aient changé, peut-être le niveau, comment on appelle ça, le niveau de vie, le coût de vie, et puis certains aspects sociaux de la vie qui changent. Donc, c'est juste cela. Hein.
Mohamed Salti, un employé de la filiale tchadienne de la compagnie pétrolière publique chinoise, la CNPCIC.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui.
À la réalisation, Joselle Morissin.
À la console, Brian Marcoulier.
Au micro, Claire Morin-Gibourg et Fernand Faudzin.
Et nous nous quittons en musique avec Zé Louis du Cap Vert qui vient de terminer une grande tournée française. Menuisier, Zé Louis a sorti son premier album l'année dernière à l'aube de ses 60 ans. Il chante la morna qui est au Cap Vert ce que le fado est au Portugal. Zé Luis interprète ici Amigo.
Bom dia de paródia, não estragar, nos dolinha no total.
Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là, sur nos pages Facebook et Twitter, VOA Sahel+.
Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Não pega violão, não entra na rol, não fazemos rachão. Embora, e esta flor, mas de nós está demais. Nunca te falta nada de lamboia, até de escrever, brincar no condomínio. Que não importa, não divertir, não passar nos tempos. Embora
fiesta flor, marinos y hasta más. Nunca te falta nada de la boya, a te escribe, brincando.